I knew a man, Bojangles, and he danced for you. Worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt and baggy pants.
Bonsoir et bienvenue sur Calade. C'est un plaisir de retrouver Nina Simmons pour ses quelques notes égrenées en début de cette émission Vagabondage. Une nouvelle saison débute aujourd'hui en votre compagnie avec quelques anciens qui continueront à faire vivre cette émission, peut-être. Nous accueillerons d'ailleurs tout à l'heure Bertrand qui nous rejoindra dès qu'il aura fermé la librairie pour venir nous partager ses coups de cœur de la rentrée littéraire. Et puis nous accueillons aussi dans notre joyeuse et dynamique équipe Sylvie Calais. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Alors Sylvie, je crois que l'année dernière vous aviez déjà fait un vagabondage en tant qu'invitée de Bertrand Lamure.
Tout à fait.
Et puis finalement, peut-être que l'envie va vous prendre d'aller un peu plus loin que d'être invité, mais de vous essayer vous aussi à cet exercice d'expression qui est l'expression radiophonique.
Peut-être, peut-être.
Alors, je parle d'expression comme ça parce que, je le rappelle, Sylvie Calais, vous êtes donc non pas la présidente, mais la principale animatrice des ateliers d'écriture qui sont proposés par l'association Écriture et Papyrus.
Je suis la fondatrice également de l'association.
Donc une association qui est basée à Villefranche et dont nous allons parler un petit peu dans cette première partie d'émission.
Très bien.
Et vous êtes venu justement pour nous parler, nous présenter du travail que vous faites autour de l'écriture. Vous êtes accompagnée de Sandra Bernard qui a suivi plusieurs ateliers avec vous, qui participe d'ailleurs actuellement à un atelier qui s'appelle Écrire la ville et qui a aussi participé à un atelier autour du roman. Bonsoir Sandra Bernard.
Bonsoir.
N'hésitez pas à bien vous approcher pour parler dans ce micro qui semble un peu vous faire peur. Alors Sylvie, est-ce qu'on peut présenter en quelques mots, en quelques phrases, l'association Écriture et Papyrus ?
Oui, donc c'est une association basée à Villefranche qui propose d'une part des ateliers et des stages d'écriture créative à visée plus ou moins littéraire selon le type de stage ou d'atelier. Et puis, d'autre part, des prestations rédactionnelles, donc écriture d'ouvrages de commande et tout ce qui a trait à l'aide à l'écriture sous toutes ses formes.
Alors, si j'ai bien compris, quand vous dites ouvrage de commande ou aide à l'écriture, quelqu'un qui a envie d'écrire ses mémoires ou quelqu'un qui a envie de laisser une trace de quelque chose qui lui est arrivé, il peut vous faire appel à Écriture et Papyrus ?
Alors, pour l'instant, on ne propose pas des services de biographe. Par contre, on a travaillé pour des associations, pour des foyers aussi de personnes handicapées. On a travaillé pour plusieurs structures qui voulaient laisser une trace de leur histoire, donc plutôt pour des groupes.
Pour accompagner alors des personnes dans l'écriture.
Alors, il y a plusieurs options. Il y a eu des animations d'ateliers d'écriture, par exemple auprès des ouvrières de Le Jabi, qui avaient été licenciées à Bellegarde-sur-Valserine, et avec une mise en forme qui a donné un ouvrage qui s'intitule « Adieu Cousette, paroles de Le Jabi ». Et puis, par exemple, au foyer Adélaïde Perrin à Lyon, Donc là, c'était plutôt des ateliers de parole, puisque la plupart des dames qui ont témoigné de leur vie dans ce foyer étaient atteintes de certains handicaps et puis étaient assez âgées, donc ne pouvaient pas écrire. Mais à partir des paroles recueillies, à partir de ce qu'on a pu trouver dans les archives de l'établissement, j'ai écrit un livre qui s'intitule « Les murs noirs ». Et il faut savoir que ce foyer, auparavant, s'appelait établissement de charité pour jeunes filles incurables et que ces dames y ont vécu toute leur vie. Donc c'est un témoignage poignant.
C'est là où aussi cet établissement, le Centre Adélaïde Perrin, est assez intéressant puisque c'est un des rares établissements accueillant des personnes handicapées à les garder aussi dans l'âge avancé et à ne pas faire une orientation vers la maison de retraite comme c'est bien souvent le cas.
Oui, peut-être. C'est-à-dire que ces dames, depuis l'âge de 4 ans, 13 ans, 15 ans, n'ont connu que ce lieu. Donc, ils ont voulu les préserver au maximum, ce qui n'a pas été forcément fait dans leur vie.
Alors, Sylvie Calais, comme ça, un peu à brûle-pourpoint, si je vous dis le mot vagabondage, qu'est-ce que ça vous évoque tout de suite comme ça là ? Qu'est-ce qui jaillit dans votre monde intérieur en entendant vagabondage ?
Ben, pour moi, je dirais livre, parce que j'ai toujours voyagé, beaucoup voyagé à travers les livres. C'est ma façon de comprendre, de connaître l'univers, c'est vraiment lire. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit en premier, après voyage, après découverte, mais lire.
Lire, voyager, alors voyager, c'est toujours cette fameuse phrase, le voyage est aussi important que la destination. Est-ce que derrière aussi le terme de vagabonder, on laisse place à la surprise, on laisse place à l'inconnu, on laisse place à la divagation, à la déambulation?
Bah, oui, puis moi, pour moi, il y a aussi une idée de liberté derrière le terme vagabondage. Voilà. Donc effectivement, liberté veut dire aussi surprise, veut dire aussi inconnu, se surprendre soi-même, comme on peut le faire dans les ateliers d'écriture, surprendre les autres peut-être.
Alors, on va essayer de faire connaissance un peu avec vous, Sylvie, et puis essayer de voir aussi en filigrane ce que vous avez envie de faire de vagabondage, de comment vous imaginez vagabonder sur les ondes avec nous. Et peut-être, avant de répondre à cette question-là, ou d'essayer de commencer à y répondre, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qui vous a amené à l'écriture et ce qui vous a amené à accompagner à l'écriture ?
On va dire que c'est vraiment la lecture, puisque depuis toute petite, je suis lectrice. Et voilà, j'éprouve ce plaisir du mot, ce plaisir de la phrase ciselée. Et du coup, je suis passée un peu de l'autre côté. Mais pour moi, lire et écrire, c'est les deux pans d'une même activité. J'ai tout naturellement eu envie d'écrire très tôt. Et puis, comme j'ai ce plaisir du mot et que je m'aperçois que plein de personnes n'osent pas se lancer, n'osent pas écrire ou ont des blocages parfois liés à des expériences scolaires difficiles, moi j'ai vraiment envie de transmettre ce plaisir à toutes sortes de publics, notamment des publics qui ne seraient pas enclins à aller d'eux-mêmes vers l'écriture, mais qui peuvent découvrir vraiment un vrai plaisir à écrire.
Vous pensez que beaucoup de gens ne s'autorisent pas à écrire ?
Bien sûr.
Ont besoin, quelque part, qu'on leur donne l'autorisation.
Bien
ou
sûr.
Ou la peur du jugement de l'écriture.
Bien sûr. À l'école, on est tout le temps dans la peur du jugement, de la note, de ce que va penser le prof, de ce que vont penser les autres élèves, de la faute aussi. La faute, on devrait dire l'erreur, puisque la faute, c'est quand même un vocabulaire du chrétien, le péché, la faute. Donc, de l'erreur. Donc, effectivement, ça bloque beaucoup. Et c'est pas moi qui autorise les autres à écrire. Il faut que j'arrive à ce que eux osent, s'autorisent l'écriture, s'autorisent l'imperfection surtout, lâcher prise. Ça, c'est ce qu'on fait dans les premiers ateliers. Lâcher prise, s'amuser avec les mots, bricoler. On parle d'atelier. C'est du chantier. C'est voilà. Mmh. On essaye, on se trompe. Il y a rien de grave en atelier.
Est-ce que ça vous donne l'impression, après avoir animé tous ces ateliers, d'avoir fait toutes ces rencontres, que les gens ont beaucoup de choses à dire, enfin à écrire?
Les gens ont beaucoup de choses à écrire, et surtout, du moment qu'ils acceptent d'oser, ils les écrivent très bien. Et eux-mêmes se surprennent souvent. Et moi, je suis vraiment, je le dis sans démagogie, mais je suis vraiment bluffée par la qualité des textes qui sont écrits en atelier, la variété, la diversité, la richesse.
Est-ce qu'il faut se reconnecter, ou alors simplement se laisser connecter à une source, à quelque chose, à la source créative, à l'envie d'expression? Qu'est-ce qu'il y a besoin, quel est, j'allais dire, le premier petit pas que l'on doit faire quand on veut se mettre devant une page de cahier, devant une feuille volante?
Alors, quand on écrit seul, effectivement, il faut... Enfin, moi, je peux parler que pour l'écriture en atelier. Et moi, je dis aux gens, laissez-vous guider. Laissez-vous guider. Si vous n'écrivez pas, ce n'est pas de votre faute, c'est de la mienne. C'est que je n'aurais pas su vous guider. Voilà. Laissez-vous porter en essayant d'avoir le moins peur possible, mais la peur passe vite en général. Mais voilà, laissez-vous aller, laissez-vous guider. Et c'est mon travail, c'est mon boulot d'amener les gens à l'écriture.
C'est amusant que vous ayez comme ça imaginé directement que l'écriture, c'est complémentaire à la lecture. Si on fait un petit pas de côté et qu'on va du côté de la musique, on peut se dire qu'il y a beaucoup de mélomanes, de gens qui aiment beaucoup la musique, mais qui n'auraient jamais l'idée d'apprendre à jouer d'un instrument.
Oui, certainement. Moi, je ne suis pas musicienne et je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Pour moi, c'était une évidence que, effectivement, quand on lit beaucoup, on a envie aussi de s'emparer de ce matériau qu'est le mot. Et puis, voilà, le triturer, s'en amuser, essayer de faire des choses avec.
Pour vous souhaiter la bienvenue, je vous ai proposé de choisir notre première pause musicale. Ce qui va venir faire une petite respiration. Et tout de suite, sans hésiter, ça a été Barbara.
Barbara.
Avec la chanson « Dis, quand reviendras-tu ?» Tout de suite sur Calade.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire et comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas, et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? Guerre, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde et mes merveilles. J'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celle qui meurt de chagrin. Je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Dis, mais quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
Barbara sur Calade pour cette première pause musicale dans Vagabondage. Et c'était un morceau qui était choisi par Sylvie Calais. Et puis ça a permis surtout à Bertrand Lamure de nous rejoindre, de venir s'asseoir autour de cette table. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir à tous.
Dans quelques poignées de minutes, nous parlerons rentrée littéraire, nous parlerons livres un peu plus... précisément.
Pourquoi
en tout cas,
pas.
Pour l'instant, on s'intéresse un peu à cette nouvelle venue dans l'équipe, Sylvie Calais, qui rejoint l'aventure Vagabondage. Et nous étions en train de parler un peu d'écriture, d'atelier d'écriture, de le lien entre écriture et lecture. Voilà, toutes ces choses-là un peu qui s'emmêlent, qui s'entrelacent. Et justement, vous êtes venue, Sylvie, avec Sandra Bernard. Voilà, je vais dire Sarah, mais non, c'est Sandra Bernard.
Ça m'arrive souvent.
Je pense, oui.
Alors, Sandra, vous avez participé à un premier atelier, qui est l'atelier roman.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel était le but de cet atelier et pourquoi vous étiez inscrite dans cet atelier?
Le but de l'atelier, me semble-t-il, mais en tout cas, mon but à moi, c'était d'arriver à aboutir un projet de roman.
Oui.
parce que l'écriture, ça peut être un hobby, mais on peut aussi y mettre des enjeux assez importants. C'était mon cas. Et donc, j'avais besoin qu'on m'aide un petit peu à, voilà, à aboutir, à mener à bien ce projet.
Et du coup, il a abouti, ce projet ?
Il est en train. en tout cas, ça a contribué à me, oui, à débloquer les choses et à faire en sorte que j'avance sur ce projet. Oui.
Vous aviez envie d'écrire un roman ou vous aviez déjà une histoire qui habitait dans votre monde intérieur et qui demandait à sortir ?
Mais c'est ça qui est très étrange. Je suis arrivée avec une vague idée. Et ça a pris une toute autre direction. Sylvie en parlait un petit peu tout à l'heure. Mon expérience des ateliers avec Sylvie, c'est qu'on se laisse surprendre par soi. C'est-à-dire qu'on se laisse guider par Sylvie assez facilement, je dois dire. Et c'est toujours des propositions créatives, surprenantes. Et on se découvre aussi au travers de ces ateliers. Donc j'ai eu beaucoup de surprises sur l'idée du roman qui a finalement pris forme, sur mon style, sur des tas de choses.
Et cette histoire, alors petit à petit, vous l'avez découverte,
oui.
Assez construite.
Oui.
Quelle a été, écrire un roman, est-ce que c'est aussi un geste technique ? Est-ce que ça demande une organisation ? Est-ce que c'est...
Ben c'est un mélange, mais c'est ça qui est bien avec la proposition de Sylvie, c'est qu'elle arrive à nous lancer sur l'écriture, nous aider à faire retomber un petit peu la pression qu'on peut se mettre. Et puis en même temps, effectivement, il y a des apports, il y a des repères. Et dans cet atelier roman, en fait, on a aussi construit la structure de notre roman. Enfin, en tout cas, moi, j'ai construit une belle structure qui m'aide aujourd'hui à continuer et à alimenter... mon plan tel que je l'ai construit dans l'atelier, en fait.
Et comme vous n'en avez pas assez, vous vous êtes inscrite à un deuxième atelier.
Ça fait 4 ans que je suis à Villefranche. J'ai rencontré Sylvie, d'ailleurs, à la librairie des Marais. Alors, j'animais une conférence. Et depuis, je m'inscris à des ateliers. Et voilà, je fais de nouvelles expériences, comme cette année avec l'atelier « Écrire la ville ».
Alors, cet atelier, quel est le but ? Sylvie et Sandra, est-ce que vous pouvez nous en parler peut-être de voix ?
Ouais, pour moi, l'idée, c'est d'explorer la ville de Villefranche. La ville, c'est quand même un lieu assez fabuleux, un lieu de rencontre, un lieu de mouvement, un lieu de fracture, un lieu d'opposition. Et d'élargir le regard comme ça à cette ville. Donc on commence le samedi matin par une petite pérégrination dans un lieu avec des consignes pour prendre des notes. Et puis les participants reviennent écrire à l'atelier, mais nourris de tout ce qu'ils ont pu voir ou entendre ou ressentir voilà, par rapport à la ville. Donc j'avais vraiment envie de cette exploration-là qui nourrit vraiment après l'intériorité, l'exploration littéraire.
Comment se déroulent les ateliers ? C'est une fois par semaine ?
Non, tout dépend du type d'atelier. Après, je ne suis pas, voilà, je suis pas toujours disponible puisque j'ai aussi beaucoup d'autres activités. Donc, c'est plutôt un rythme mensuel ou une fois tous les 15 jours pour certains, mais ce n'est pas si régulier que ça. Puis tous les ans, le programme change parce que la routine, ce n'est pas mon truc.
Du coup, quand vous accompagnez les gens à l'écriture, j'imagine qu'ils ont envie d'avoir votre regard et qu'il y a un peu toujours cette envie, même si ça peut parfois refroidir, mais cette envie de jugement. Est-ce que ce que j'ai écrit, c'est bien ou pas bien ? Et comment vous positionnez par rapport à ça et quel regard vous portez sur les écrits des personnes qui participent à vos ateliers ?
Alors moi, je ne suis pas prof, je ne suis pas gourou, je ne suis pas psy. Je suis animatrice d'ateliers d'écriture, le c'est bien ou pas bien, ça ne m'intéresse pas, ça ne veut rien dire. Par contre, d'ailleurs, tous les participants sont invités à faire des retours sur les textes. Je n'ai pas de vérité absolue. Par contre, on peut parler de son ressenti, on peut parler d'une formule qui nous a plu parce que... On est souvent sur des remarques constructives mais positives qui font bien plus avancer les gens, j'ai l'impression, que des jugements de valeur. Et puis, en atelier, il ne faut pas oublier que tout le monde écrit à partir d'une même proposition d'écriture. Mais ensuite, on lit et on écoute les autres. Et le fait d'écouter les autres aussi affine sa propre perception, voilà, permet aussi d'oser de nouvelles formes d'écriture. Et ça, c'est important de se dire que moi, je ne suis pas là pour être jugeante. D'ailleurs, je ne vois pas à quel titre je le serai. Après, on peut remarquer qu'il y a des choses qui nous émeuvent plus que d'autres ou qui font plus écho que d'autres. Alors, je module un peu pour ce qui est du roman. Effectivement, un roman, c'est quand même une construction. Donc, il faut quand même qu'il y ait une cohérence, une crédibilité. Après, le thème est libre, le style appartient à chacun. Mais effectivement, il y a quand même cette colonne vertébrale qu'il faut donner au livre. Et là, effectivement, je peux intervenir à ce niveau-là.
Sandra Bernard, est-ce que vous avez remarqué, ou peut-être que vous n'avez jamais posé la question, mais est-ce que vous avez remarqué si votre écriture a évolué, changé avant l'atelier et maintenant que vous participez à ces ateliers?
C'est un peu difficile pour moi de le dire parce que je pense qu'avant, je n'avais pas abouti autant à un projet. Et je pense que je suis encore en train de découvrir mon style, en fait. Que certains ont de mes compagnons d'atelier ont défini ou ont, voilà, ont essayé de décrire, mais voilà, j'ai pas encore assez de recul en fait pour pouvoir le décrire très précisément et dire qu'il a évolué. En fait, je suis encore en découverte de mon style, je pense.
Alors moi, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés, je parle un peu naïvement, mais avec cette notion de style, même si je la comprends intellectuellement, c'est vrai que c'est difficile.
Alors on peut parler de la petite musique de chacun. Je ne sais plus si c'est Proust qui disait le style, c'est la façon dont on voit le monde. En fait, c'est pas essayer de ne pas être dans les clichés, pas essayer de reproduire ce qu'ont écrit les autres. Mais,
c'est ne pas écrire comme les autres.
C'est écrire par rapport à soi, selon sa perception et par rapport à la façon dont on a envie d'écrire. Mais déjà, il faut la découvrir, il faut être en recherche de ça. Voilà, comment j'ai envie d'écrire, comment je vois le monde, comment j'ai envie de transmettre ça.
Est-ce qu'on pourrait faire une comparaison avec la voix? C'est-à-dire, le style, c'est la façon un peu qu'on a de chanter. Et le but n'est pas d'imiter la façon de chanter des autres, mais de trouver sa propre façon de chanter.
Sûrement. Bon, alors après,
je ne sais pas, peut-être la comparaison
est hasardeuse, je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste du chant, moi,
je ne sais pas.
Je chante très mal. Je ne sais pas. Mais
j'essaie de trouver une comparaison pour avancer un peu sur cette question du style, je sais pas.
Ouais, oui, c'est vrai.
Ben ouais, le style pour moi c'est vraiment la façon dont on va avoir envie de partager sa vision, sa vision du monde. Pour moi c'est vraiment ça. Après c'est compliqué à...
Et puis après, il y a quand les textes sont chantés, alors. Là, c'est encore autre chose, c'est une autre dimension.
Ouais, on n'écrit pas de chansons. J'ai pas encore animé d'atelier sur les chansons. Ouais, poésie, oui.
Des choses à chanter.
Animer des ateliers poésie, écriture érotique, pas mal de choses, mais pas chansons. Pas texte de chansons.
Il ne vous a pas échappé, sauf si vous n'avez pas ouvert un journal ou écouté la radio, ni allumé votre télévision, que Charles Aznavour... avait quitté ce monde hier et que on avait l'impression que tout le monde était un peu unanime pour dire que c'était quelqu'un justement qui avait du style dans son écriture, qui avait un style particulier en chantant aussi, alors que l'on aime ou pas en tout cas.
Bien
sûr. Et bien moi je voulais vous proposer qu'on écoute quand même une chanson de Charles Aznavour et celle que j'ai choisie de façon tout à fait subjective. Ah. j'ai hésité à vrai dire entre deux chansons, parce que moi, il y en a une qui m'avait toujours marqué et touché, c'était « Comme ils disent », parce que je trouvais que c'est... Alors, cette chanson a été écrite avant que je sois né, hein, parce qu'elle a été écrite en 72, mais en même temps, voilà, on découvre les chansons aussi, des fois, quand elles ont déjà eu une belle vie. Et j'avais trouvé, voilà, qu'il y avait une justesse dans cette façon... en tout cas, on sentait qu'il y avait de la bienveillance, voilà, plus que de la justesse, de la bienveillance dans cette façon... De se mettre dans la peau d'un homme homosexuel et qui raconte son quotidien, qui raconte...
Surtout en 72.
Surtout en 72, où c'était encore considéré comme une maladie psychiatrique.
Mais c'est vrai que du coup...
En y repensant, justement, hier soir, je me dis finalement, il avait quand même été courageux à ce moment-là, parce que c'était un sacré risque.
Puis surtout, on en parlait tout à l'heure, avec l'écriture, il y a la chanson qu'on retient. Je trouve que dans ce... Il y a le texte, Et au final, quand on réécoute, évidemment, parce que depuis hier, il y a beaucoup de choses, et en fait, comment le texte peut parfois prendre le pas presque sur l'interprétation. Je pense à la Mama. Du coup, depuis hier, j'en ai entendu 3-4 interprétations, une de Lily Boniche qui était extraordinaire. Et du coup, comment le texte, l'interprétation de ce texte a fait... est allé très loin. Et comme il dit, je trouve que le texte est extraordinaire, en fait.
Ouais. Mais c'est pas cette chanson-là que j'ai choisie.
Et voilà, c'est ça. Il y a une mise en scène.
Alors,
une...
sauf si vraiment on peut changer, peut-être en dernière minute, si vous avez vraiment envie. Moi, j'avais envie d'écouter hier encore, parce que
il
y avait quelque chose, une petite nostalgie. Mais bon, restons sur hier encore, puis on verra. Si on a un petit peu de temps, on pourra peut-être écouter comme ils disent. Donc c'est Charles Aznavour sur Calade.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laisse au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans.
Charles Aznavour sur Calade dans l'émission Vagabondage avec la chanson Hier encore. Bertrand Lamure,
Benoît Adam,
de la librairie des Marais. Je ne sais pas comment, dans quel sens prendre les choses, si on commence tout de suite avec la rentrée littéraire, la présentation de livres, ou si on restait un peu sous le monde de la confidence. Ouais, j'ai ramené des choses sur la...
Je me méfie, parce que comme tu as un scénario, comme un lien, donc maintenant, je ne sais plus quoi dire.
La semaine dernière, je suis passé à la librairie Bertrand. Et puis, d'ailleurs, c'était pour rencontrer Sylvie, voilà. On s'est fait une petite réunion à la librairie. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir, et d'ailleurs la jalousie que ça crée chez certaines personnes de mon entourage, de pouvoir disposer de la librairie comme ça, à la fermeture, et de pouvoir vagabonder à l'intérieur. Et je me suis arrêté vers la poésie japonaise. Voilà, ça me faisait penser d'ailleurs tout à l'heure, Sylvie, écrire la ville. J'imaginais bien déambuler dans la ville, puis... choper comme ça les petits moments qu'on peut voir pour essayer d'en faire un haïku. Je suis reparti de la librairie avec 2 livres. C'est-à-dire sans aucune volonté. D'ailleurs, je me suis dit non, cette fois j'y vais, j'achète rien. c'était pas pour cette fois. Donc, un premier livre, haïku, anthologie du poème court japonais, avec dedans voilà, pas mal de haïku qui sont classés, et avec lesquels voilà, chaque soir je prends un petit plaisir d'en lire quelques-uns pour me laisser transporter dans des... Et puis, j'avais... vu ce livre qui est très joli, c'est la couverture qui m'avait attiré,
un livre de Philippe Costa qui s'appelle Petit manuel pour écrire des haïkus. Alors du coup, c'est presque finalement un atelier d'écriture qui tient dans la main. Sans l'accompagnement, bien sûr. Je vois que Sylvie, elle dit oui, enfin quand même, hein, c'est pas tout à fait
je
ça.
Je l'ai, ce livre. J'en ai beaucoup, des livres.
Et du coup, ça m'a passionné. Depuis la semaine dernière, tous les soirs, je le lis. Dès que j'ai une minute dans la journée, je le lis. Pourtant, il n'y a pas de suspense.
Non, je confirme parce que le marque-page est très avancé dans le livre.
Et ce livre m'a passionné. Alors, je n'avais pas prévu au départ de parler de ce livre-là ce soir. Mais écoutez, chers auditeurs, si jamais vous êtes un peu sensible à cette poésie minimaliste, si vous ne connaissez pas du tout, et que ce livre, il est vraiment très bien construit, et surtout, il dédramatise. C'est en ça que ça me faisait pas. Il dédramatise beaucoup de choses. Allez-y, osez, tentez. De toute façon, vous avez le droit d'écrire des haïkus sans avoir la prétention de vouloir publier un recueil de haïkus. Et puis surtout, ce qui est passionnant, c'est que à chaque fois, il met en avant toutes les figures de style qui existent. Alors, je crois que dans toutes celles que j'ai parcourues pour le moment, je connaissais trois noms, c'est à peu près tout. Tout le reste, ce sont des découvertes avec des mots les plus improbables les uns que les autres, mais surtout avec beaucoup d'exemples, beaucoup d'humour. Et c'est un livre magnifique. Un petit exemple tiré comme ça de ce.
Bah oui.
Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce.
Mais c'est vrai que par contre, je trouve qu'il y a tu avais fait un atelier sur le haïku, et depuis quelques années, j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont redécouvert le charme du haïku. C'est vrai que c'est un vrai plaisir.
Il faut savoir
plaisir.
Que le haïku peut être assez trivial, hein. C'est pas forcément. Ouais, on n'est pas dans la poésie.
Alors oui, il fait bien
l'accent. Et puis même être terre à terre.
Oui, oui.
Ah oui, par exemple, la suivante, c'est au Bouddha, je montre mes fesses, la lune est fraîche. Voilà. Il n'est pas du tout éthéré, celui-là.
Non.
Jusqu'à présent, mon préféré était quand même celui-ci, un haïku de Is. Puisqu'il le faut, entraînons-nous à mourir à l'ombre des fleurs.
Oui, j'avais eu l'occasion l'an dernier d'évoquer un peu l'haïku. J'avais évoqué une personne qui est adorable, qui s'appelle Bernard Bador, qui est quelqu'un qui vit dans le Beaujolais, mais qui, à l'heure actuelle, est au Japon avant de partir, il m'a dit, en Inde le mois prochain. Donc c'est un grand voyageur. Et il fait des petits recueils de haïku. Et c'est somptueux ce qu'il fait. Je trouve que... et donc c'est ça. Je trouve que c'est intéressant, c'est que les... Et par exemple, il existe un haïku du chat, mais c'est que sur les chats. Et je trouve que c'est hyper touchant. Et on a l'impression qu'on va toujours de découverte en découverte et que c'est à l'infini que l'art du haïku.
Alors, si vous avez envie de mettre un peu de poésie dans votre vie, mais que vous n'avez pas beaucoup de temps à y consacrer, haïku, ça va vite à écrire. Et puis, le haïku, c'est un jaillissement, ça arrive comme ça. Parce qu'on voit quelque chose, on entend quelque chose, tout d'un coup, on a envie. Alors moi maintenant je me balade toujours là avec ce petit manuel pour écrire des haïkus et puis pour un petit carnet à côté pour justement attraper au passage les haïkus qui jaillissent. Et j'avais envie vraiment parce que là c'est un vrai coup de cœur, c'est pas le coup de cœur genre quel livre je vais parler aujourd'hui, ça a été vraiment mon coup de cœur et ça me passionne chaque soir de lire ce livre. Voilà, j'ai terminé avec mon coup de cœur.
Et alors, est-ce qu'on se lance dans quelques coups de cœur de ce qu'on appelle la fameuse rentrée littéraire ?
Mais oui, nous mourons d'impatience d'ailleurs de savoir quels sont ces coups de cœur.
C'est plus que vaste, hein, puisque la rentrée littéraire, c'est une sorte d'institution française, hein, puisque arrivé le mois d'août, on a la fameuse rentrée littéraire. Pour information, cette année, c'est à peu près 600 romans, et je parle que des romans, hein, qui paraissent entre mi-août et fin octobre, donc c'est énorme. Aussi bien littérature française qu'étrangère. Alors, ce qui est intéressant et ce qui est passionnant quand on est libraire, c'est que nous, on commence à travailler ça dès le mois de mai. Donc, dès le mois de mai, on a des rencontres avec des éditeurs, avec des auteurs, avec nos représentants. Et on peut, du coup, se lancer dans des lectures dès ce mois de mai. Donc, tout au long de l'été, on découvre. Alors, évidemment, pas 600 parce que c'est impossible, mais en tout cas, quelques dizaines de livres. Donc c'est à la fois très subjectif, parce que effectivement, on passe certainement à côté des pépites énormes, on tombe aussi sur des atrocités, mais c'est une vraie découverte, et chaque livre, c'est une nouvelle aventure. Alors évidemment, avec ma collègue Alex, on a eu de vrais coups de cœur. Alors, je pourrais en citer des dizaines, faire une liste, etc. Suivre un petit peu la liste des prix. Alors, je vais en mettre en avant deux ou trois. Alors, c'est toujours intéressant quand on lit notre premier livre de la qui sera publié en août ou septembre et qu'on lit donc deux ou trois mois à l'avance. Et souvent, ce premier livre, on se dit, soit on est déçu, soit on est hyper enthousiaste. Et on se dit, c'est génial, le premier que je lis, il est déjà comme ça. Alors, ça avait été ça l'an dernier. Et cette année, ça n'a pas été ça du tout. En fait, j'avais voulu commencer par des premiers romans. Alors, le premier roman, ça peut être magnifique. On en parlait tout à l'heure. Je trouve ça extraordinaire, les personnes qui écrivent, parce que...
Ça met la pression, Sandra Bernard. Hein.
Mais non. Je trouve ça extraordinaire, parce que moi qui n'écris pas, je trouve que c'est fabuleux d'arriver. Alors, le problème, c'est que soit en tant que lecteur, on rentre dedans, soit on n'y arrive pas. Et j'avais commencé avec trois premiers romans. Et les trois me sont tombés des mains, où on avance, et puis à la page 50, on se dit « pas mal, mais il va se passer quelque chose ». Et à la page 80, il ne se passe rien, et à la page 100, on arrête. Et donc ça a été ça, et je me suis dit « ah bon, ça va être rude ». Et je suis tombé en fait sur un roman, alors évidemment, moi j'aime beaucoup l'histoire, et c'est un roman qui s'appelait « Louer les hommes » d'Emmanuel Pirotte, et c'est un vrai roman. Il se trouve que parfois, on est plutôt sur des récits de vie, des récits de famille. Et là, c'est un vrai premier roman. Ça se passe
Des fois, ça s'appelle roman pour éviter les procès. Hein.
Voilà. Et bon, j'avoue que parfois, je suis pas hyper fan. Et là, Lou et les hommes d'Emmanuel Pirotte, c'est un vrai roman. Ça se passe au XVIIe siècle. On est entre l'Aubrac et le Canada. On est autour d'un homme qui s'appelle Lou, qui est recueilli... garçon des bois, il est recueilli par une famille noble de l'Aubrac. Et ce garçon a un charisme fou, une intelligence folle. Et on va le suivre dans sa vie. Et ça va aller de l'Aubrac aux galères, à la cour du roi et surtout au Canada, où il va intégrer le monde des colons, mais surtout le monde des Indiens. Et on va suivre cette trajectoire. Ça se lit vraiment comme une épopée. Très belle écriture. Ça avait été mon premier coup de cœur d'octobre. En parallèle, j'étais tombé sur un autre livre complètement différent qui se passait en Égypte en 2011 autour de la place Tahrir, donc révolution de 2011 qui a renversé ce sympathique Moubarak. Et on est avec un homme qui s'appelle Ala El Aswani qui avait fait l'immeuble Yacoubian il y a quelques années, qui a eu beaucoup de succès. Et là, il nous entraîne dans un roman choral qui s'appelle « J'ai couru vers le Nil » et qui a une très très belle écriture qui nous entraîne avec tous ces personnages autour de cette révolution, autour de cette place Tahrir. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des personnes qui y croient, il y a des personnes qui sont corrompues et qui refusent le changement. Et on est avec tous ces personnages. C'est extrêmement bien écrit. On est plongé dedans. Et alors, le drame de ces romans, c'est que quand c'est fini, on est au bord de la dépression et que le roman d'après, il est extrêmement dur. Parce que du coup, il est nul. Tellement c'était bien. Et donc, ça, c'est
affreux, contraste, ça. C'est ça.
Voilà. Et j'en cite encore un. Et alors là, c'est un gros coup de cœur de ma collègue, que je n'ai encore pas lu. Mais comme j'en entends parler depuis 15 jours, tous les jours, donc je vais être obligé de le lire, bien évidemment, et avant d'être au bord de l'overdose, c'est un livre qu'elle a adoré qui s'appelle « Écorce vive ». Un livre d'Alexandre Leneau qui vient de sortir et qui est un roman noir. Ça se passe dans le Cantal, donc le monde rural, monde qui pourrait paraître glauque, etc. Et apparemment, c'est un livre qu'on ne lâche pas du début à la fin. Ma collègue me disait « je viens de le terminer, mais je crois que je vais le relire tellement il est bien. » Un peu excessif, mais c'est comme ça. Non. Donc je pourrais continuer parce qu'en fait la liste peut être très longue.
Alors on peut quand même préciser que les coups de cœur de la librairie des Marais, on peut les retrouver de plusieurs façons, sur le site, sur le Facebook.
Tout à fait.
La mailing list aussi.
Oui, bah alors en fait, l'idée, c'est que d'abord, on peut le retrouver à la librairie.
Déjà.
Et puis, effectivement, bah, nous, on aime bien, à la fois via bah, donc une newsletter.
Une visite à la librairie, ça peut se préparer aussi avant, comme ça. Parce que si on débarque à la librairie un samedi après-midi en plein rush, on dit « Parlez-moi de la rentrée littéraire, qu'est-ce qui vaut le coup de lire ?»
Ça peut oui, être non, aussi... mais non, je crois qu'il faut y aller comme on est, quand on a envie. Et puis, bah, effectivement, s'il y a 10 personnes, c'est un peu plus compliqué de vous renseigner. Mais je crois que voilà. Moi, ça a toujours été un grand plaisir de rentrer dans une librairie à n'importe quelle heure. Bon, évidemment, parfois, on peut être un petit peu déçu parce qu'on aurait bien aimé échanger avec le libraire et qu'à ce moment-là, c'est un peu compliqué. Et puis voilà, donc non. Donc je disais simplement que oui, une newsletter. Et puis on fait aussi tous les mois une gazette. Parce que moi, je suis assez quand même partisan de garder la notion du papier. Donc, on édite tous les mois une gazette papier qui est à retrouver principalement à la librairie, mais pas que. Et donc là, on a beaucoup plus de coups de cœur. Et puis, on a aussi nos événements, puisque en général, tous les mois, il y a un certain nombre d'événements. Et voilà, et dans les coups de cœur, on va recevoir, par exemple, Pascal Manoukian, qui est quelqu'un qui a écrit Les Échoués, et là, qui vient d'écrire Le Paradoxe d'Anderson. Et qui est très très bien, très fort sur autour du monde ouvrier. Voilà. Donc je pourrais continuer comme ça et comme ça, puisqu'il y en a, je vous rappelle, 600.
Mais il y a du bon et du mauvais.
Tout à fait.
Et alors, très rapidement, Sylvie, je vois que vous êtes venue aussi avec un livre. Peut-être
oui,
une envie de partager quelque chose.
C'est un poche que j'ai acheté à la librairie des Marais, qui s'intitule « N'essuie jamais de larmes sans gants », donc qui évoque les homosexuels. Ce sont des jeunes homosexuels suédois dans les années 80. On disait tout à l'heure, hein, c'était encore considéré presque comme une maladie psychiatrique. Donc c'est vraiment un livre moi, que j'ai trouvé poignant, avec des portraits attachants, des jeunes qui sont obligés de se cacher de leur famille. Benjamin, qui est témoin de Jéhovah, qui est à la fois obligé de quitter sa religion et sa famille pour vivre son homosexualité. Mmh. Et quand apparaît le sida dans les années 80, c'est une maladie méconnue. Mais là, il y a vraiment un phénomène de rejet qui se manifeste. Jugement moral, refus de soigner les malades de la part de certains médecins, mais pas seulement par peur de la contamination, mais avec vraiment ce jugement moral-là.
D'où le titre.
Ouais, d'où le titre. « N'essuie jamais de larmes sans gants ». Mais étrangement, c'est aussi ce qui a fait avancer, on va dire, un petit peu la cause homosexuelle, dans le sens où, en tout cas, tout ce qui est de l'ordre de l'union, du mariage homosexuel, ils se sont dit que finalement, s'ils ne multipliaient pas les aventures, il y aurait peut-être moins cette contamination, je vais y arriver. Vraiment, c'est à la fois dur, c'est à la fois instructif, mais c'est bouleversant aussi.
Oui, et puis il est très lumineux. Moi, j'en garde un souvenir. Oui. Bon, j'ai adoré ce bouquin. Un souvenir très lumineux, parce que du coup, c'est aussi toute la jeunesse. Des 80 en Suède.
Et la solidarité entre eux aussi.
La solidarité.
Beaucoup de solidarité.
Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour.
Ah oui, il y a énormément d'amour.
On rit beaucoup aussi. Hein,
oui, voilà. Oui, il y a aussi de l'humour. Oui.
Mais c'est vrai que les deux personnages sont. On sent qu'il y a des familles avec un poids, oh là là, qui est redoutable.
Finalement, c'est amusant. On est venu chacun un peu avec, sans se concerter avec nos choses. Il y a plein de liens qui se créent là,
oui,
entre
c'est vrai, ouais.
Une chanson, un livre. Un atelier, un recueil de haïkus, voilà. Bon, ça me fait plaisir comme ça quand il y a des petites épiphanies là qui naissent.
C'est du vagabondage.
Voilà, du vagabondage, au premier sens du terme. Eh bien, merci en tout cas Sylvie pour cette première émission, puis surtout merci à Sandra Bernard d'être venue nous parler un petit peu de votre expérience des ateliers, et puis on souhaite que ce premier roman continue à cheminer et puis aboutisse.
Je reviendrai en parler.
Avec grand plaisir. Avec grand plaisir.
Ça me met une petite pression, mais c'est bien.
Il faut vraiment le donner en premier à lire, alors, parce que si ça passe après un très grand livre, là, c'est...
Non, bah après, c'est très subjectif, tout ça. Mais c'est vrai que je pense qu'on a tous fait l'expérience d'un livre qui nous a vraiment émus, qui nous a bouleversés. Et on sait que la lecture, si on s'y remet dès le lendemain ou sur le lendemain... C'est dramatique. Le pauvre livre, voilà. Oui. Donc, mais c'est bien, je trouve que c'est super. C'est très dur, mais c'est très très bien d'avoir comme ça des livres qui nous prennent quand même. voire des haïkus.
Alors je vais peut-être déjà remercier Mathieu Roy de d'avoir réalisé cette émission, et puis je vais lui mettre une toute petite frayeur, c'est que j'ai pas envie qu'on se quitte avec Nina Simone et Beau Jungle, mais je sais pas, dans l'émotion du moment, là, dans le rythme, j'aimerais beaucoup qu'on se quitte en écoutant Jeanne Hadid avec Mutate. Bonne soirée à l'écoute de Calade, et nous on se dit à très bientôt pour un nouveau Vagabondage.
Unusual, mutate. It's unusual.